Kwetsikina, ici Alexandre Nicolas avec mon collègue André du domaine. Cette semaine, nous avons Simon Rivrain qui est notre invité. Fait que Simon, si tu pourrais t'introduire.
Salut tout le monde. Okay, moi, je m'appelle Simon Rivrain, je suis Inuktitut et puis je suis actuellement en fin de résidence autochtone à l'École nationale de théâtre où je vais présenter un spectacle immersif sur les patients autochtones qui aura lieu justement le 16, 17, 18 mai. Malheureusement, c'est déjà complet. Donc, je vais attendre quand le projet va exister pour vrai.
Alors, bonjour Simon, bienvenue sur la rue à Dadegan. Et oui, alors écoute, c'est drôlement intéressant. C'est un projet de résidence, donc il y a eu, j'imagine, un appel à projet, puis tu as répondu ou
Oh,
tu as contacté directement.
ben, je peux conter l'histoire. Dans le fond,
Oui.
c'est j'ai collaboré avec Émilie Monnet par le passé sur certains de ses projets. Et un jour, elle me dit, Simon, il y a un programme à l'École nationale de théâtre pour les Autochtones, faut que tu y ailles. Je dis, oui, mais moi, je suis pas comédien, moi, là. Elle dit, non, 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 il y a des choses pour les techniciens aussi, là. Fait que là, suite à ça, ben, on a commencé les démarches pour justement le programme de résidence. Puis Emilie, elle me disait, puis à la fin, il faut que tu fasses un spectacle. J'ai fait, ah, OK. Puis de là est émergée l'idée de spectacle immersif. J'avais pas de message encore. Tout ce que je voulais, c'était juste de créer un spectacle où on pouvait avoir comme la claustrophobie. Je voulais m'inspirer d'un spectacle que j'avais été voir en Écosse, quand on est parti ensemble, moi et Émilie, où c'était un spectacle dans le noir. On est couché sur des lits dans un conteneur, les écouteurs sur les oreilles. Comme moi, je suis un homme qui tripe sur le son, ben, je voulais faire un spectacle 100% ambiophonique, les yeux fermés. Puis, à un moment donné, ben, j'étais en train de souper avec Charles Bender, puis j'y racontais ce qui se passait avec mon futur à l'époque qui était d'entrer à l'école. Puis j'y parlais de faire ce spectacle-là immersif. Puis lui, tout bonnement, il m'a dit, ouais, mais tu veux parler de quoi? Puis moi, j'ai dit, ben, je sais pas trop, là. J'ai juste une petite idée de faire vivre une émotion, mais j'avais pas de message. Puis il est arrivé avec la proposition de, ben, je pourrais parler des pensionnats. Fait que de là est née, justement, la petite idée qui s'est concrétisée au cours des années. Puis maintenant, c'est quelque chose qui est devenu réel. C'est vraiment un sentiment intéressant là, de le moment où tout ce que tu as, c'est des idées, puis que finalement ça devient une réalité. Là. Il y a quelque chose de vraiment le fun qu'on ressent dans nous autres. J'imagine que vous l'avez déjà ressenti vous aussi par le passé. Fait que c'est vraiment un beau sentiment.
Oui, effectivement, ça m'est arrivé à quelques reprises. D'ailleurs, c'est pas le moment parce qu'en principe, c'est toi la vedette, mais là, vu que tu me questionnes, je vais répondre. J'ai réalisé un film expérimental en 85, 86, ça fait au siècle dernier. Et là, la cinémathèque l'a numérisé. Et effectivement, la bande son l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et le son numérique est absolument extraordinaire, là, comparé au son optique qui était sur la pellicule à l'époque. Et ils vont le présenter le 1er juin au cinémathèque. Et je suis bien content. Je suis bien content parce que j'étais inquiet. J'ai dit, après toutes ces années, revoir quelque chose qui appartient si loin dans le temps, puis waouh, c'était justement l'expérience ambiaphonique du son, toute remasterisée là, à partir du mix original. C'était, non, c'est magnifique, magnifique. Mais il faut dire que on avait passé 3 semaines en studio pour un court-métrage, tous les jours, là, à fabriquer cette bande-son et ça, les résultats sont là, voilà. D'ailleurs, toi-même, et ça nous amène. Oui, parce que c'est intéressant, effectivement, tu es d'abord parti d'une idée d'un dispositif et pour après, effectivement, dans tout ton lien, parce que tu es quelqu'un qui est peu connu et tu as vécu à peu près toute l'effervescence et la renaissance des arts autochtones dans les dernières décennies comme technicien. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, premièrement, on pourrait on est parti du plus récent à l'on plus ancien. Comment t'es tombé dans la technique des spectacles? Comment ça t'a, tu t'es développé d'abord professionnellement à ce niveau-là?
Ben, moi, je suis arrivé à Montréal il y a presque 10 ans maintenant, en 2014. Et puis, j'étais pas encore au milieu de la scène, j'étais pas encore un technicien à l'époque. Mais j'étais déjà un musicien, puis je jouais déjà avec des logiciels d'enregistrement de musique. Donc, j'avais déjà un peu, ben, j'avais cette fibre-là de technicien en moi, qui dormait tout le temps. En exemple, quand j'étais au secondaire, ben, j'étais tout le temps le gars qui était sur la petite console de son de la radio étudiante. À toutes les fois que je suis devant la télévision ou un système de son, je suis tout le temps en train de pitonner pour avoir un beau son. Au désagréable, tous mes amis qui sont obligés d'endurer tous les changements pendant qu'on regarde un film, puis ça peut être plate comme expérience pour les autres. J'avais toujours ça. Mais je sais pas si le fait de vivre sur la côte nord ou assez loin du milieu des arts faisait que je voyais pas ça comme un métier possible. Sauf qu'en arrivant ici à Montréal, ben là, la proximité est beaucoup plus présente. Ben oui, la proximité est là, mais c'est comme omniprésent aussi. Il y a des arts toutes les semaines, tous les jours. Puis à l'époque, ben, j'avais comme travail plus de bureau. Même si j'ai les capacités de faire de la coordination de projet puis tout ça, je pense que j'avais moins la personnalité. La motivation était moins là. Je prenais le métro, puis je voyais le matin quand je m'assoyais, je voyais les affiches de publicité, d'école de musique, puis d'école en technique de son. Et un jour, ben, quand l'opportunité s'est pointée, ben, j'ai accepté de faire le bond dans une école. Je sentais que si je le faisais pas, j'allais le regretter pour ma vie, genre. Je me dis, ben, faut que j'y aille. Faut que je l'essaye, puis au pire, je vais le savoir, tu sais. Puis, je me disais, quand je faisais mes projets de création musicale personnelle pour le plaisir, je voyais pas le temps passer. Je me disais, ça doit être un signe, ça aussi, là. Le fait d'aller faire des shows de musique métal au cégep de Baie-Comeau, bénévolement, me disait aussi, c'est un autre appel pour me dire, ben, c'est peut-être ça ton métier, là, finalement. Depuis le jour-là, je suis très heureux, puis évidemment, j'ai aucun regret. J'ai fait la bonne affaire.
Pas mal moins plate qu'un travail de bureau, en effet. Mais là, tu t'es greffé sur différents projets. Est-ce qu'il y en a dont tu as une mémoire là, que ça a été une expérience marquante pour toi?
Je dirais la première fois que j'ai été appelé, que j'ai collaboré avec la production Manon Dagwan comme technicien. Je connaissais déjà Marco et Charles par le passé en travaillant à Montréal. Je les avais croisés. Mais lorsque je suis arrivé sur leur projet à eux, c'était vraiment un hasard parce que leur directeur technique m'avait engagé, mais il savait pas vraiment que j'étais autochtone, puis il savait pas que je les connaissais. Moi, j'avais aucune idée que le directeur technique travaillait avec des productions autochtones. Ça a vraiment été un hasard que je tombe dessus par le fait même parce qu'il remplaçait un autre directeur technique sur un projet ici à Wilfrid Pelletier. Avec le hasard a fait en sorte que je me retrouve avec Charles et Marco pendant un projet là où le sang se mêle. Ça a vraiment été ma première expérience de travail avec production autochtone. Après ça, le même directeur technique m'a référé à Émilie Monnet qui cherchait un assistant en conception sonore. J'ai levé la main. Et en même temps, cette année-là, Natacha Canapé-Fontaine cherchait un concepteur sonore Innu. Puis j'ai fait, ben, je peux essayer, ça va me faire plaisir. Fait que, depuis ce temps-là, là, ça commence. Et évidemment, en allant à l'école en résidence autochtone, ben là, parce que je vais avoir une place de plus en plus établie au sein des arts autochtones à Montréal.
Oui, ben là, c'est que tu passes d'un, comment dire, d'un créateur assistant à la création, à idéateur et concepteur principal, effectivement, c'est un pas en avant. Mais c'est quand même intéressant, Manon Dagwan, c'était une troupe autochtone, enfin, d'ailleurs encore jeune, hein, qui vient d'être créée, donc tu tombais quand même. Il y avait déjà un côté un peu expérience nouvelle, là, mais pas dans des structures établies avec des longues traditions et tout. Même les trois comparses, là, Marco Collin, Charles Bender, puis Xavier Huard. Et c'était une collaboration récente, les trois ensemble autour d'une troupe. Ça, il devait quand même avoir une ambiance assez particulière.
Oui, ben, c'est sûr. Moi, ben, je suis resté pour voir le spectacle, mais je les ai plus rencontrés vers la fin du montage, puis de l'installation des gradins. Oui, c'était vraiment. Il y a toute cette énergie qu'on retrouve aussi dans le milieu des arts vivants, du théâtre. Quand je reste, on dirait que les gens sont très heureux dans le milieu des arts. Puis cette énergie-là, je l'ai adorée comme ambiance. Mais loin du protocolaire, puis du corporatif. Fait que c'est toute une autre énergie. Puis justement, là, je découvre les processus de création aussi. C'est un moment où on prend notre temps d'explorer des choses. Puis on vit vraiment des belles émotions aussi pendant ces moments-là.
Ah, j'ai longtemps gravité avec Andinoc, là, avec Yves Sioudiran puis Catherine Jonca.
Mm-hmm.
Ils m'ont toujours invité à leur pièce de théâtre, puis j'ai suivi le groupe, les acteurs, les comédiens, puis on dirait que ce sont toujours c'est très serré. C'est le fun d'avoir cette énergie-là, comme tu disais, genre quand on se ramasse ensemble entre autochtones, puis c'est quasiment une petite communauté qu'on se fait. Là.
Mais est-ce que tu as travaillé avec Andinoc aussi?
J'ai pas eu la chance encore.
Parce que c'est eux les premiers, hein, c'est Durand premier qui avait ouvert la porte là il y a longtemps au Conseil des arts pour avoir un programme autochtone. Puis il y a pas mal de monde qui sont passés par là. Je pense Bender est passé par là justement, si ma mémoire est bonne, ou puis Marco. J'y vais de très lointaine mémoire, je peux me tromper, mais il me semble bien. En tout cas, ça l'a poussé du monde. Vers les arts de la scène et la création, effectivement, du milieu autochtone qui n'aurait peut-être pas pensé. Mais aussi, je trouve intéressant ton expérience. Il faudrait peut-être faire de toi ce qu'on appelle un role model, modèle inspirant. Parce qu'il y a longtemps aussi, Michel Rouleau, là, qui fait, bon, elle a été présidente de Femmes autochtones il y a très longtemps, et c'est comme ça qu'elle a été très connue, mais maintenant, elle s'occupe d'une maison de production. Et je sais qu'elle m'a dit plusieurs fois, les Autochtones rêvent tous d'être réalisateurs. C'est très bien, parce qu'il y a des gens qui ont cette énergie créative et cette volonté. Mais tu sais, il y a plein de métiers dans l'audiovisuel, le cinéma, la télévision. Justement, preneur de son, directeur photo, monteur. Et qui sont aussi, c'est pas tout le monde qui a envie d'être à l'avant-plan puis de mener la production. Ça prend des maudites têtes de cochon, là. Avec toi, je suis pas trop inquiet, mais c'est pas tout le monde qui a envie d'être dans ce rôle-là, qui se voit plutôt comme des technos qui accompagnent toute la grosse machine et qui en prennent soin, qui mettent de l'huile dans les rouages. Et souvent, c'est méconnu. D'ailleurs, toi-même, tu l'as mentionné tantôt quand tu disais que de Pessamit, tu pouvais te voir comme musicien, mais pas comme techno de scène ou techno de son. Alors, est-ce que tu verrais, toi, un moyen, justement, de mieux faire connaître tous ces métiers moins, peut-être moins glorieux, mais tout aussi gratifiants quand c'est quelque chose qui convient à ceux et celles qui s'y consacrent.
Moi, je pense que ça serait vraiment c'est sûr que ça prend des fonds, mais si on peut avoir une équipe mobile qui va à la rencontre des communautés avec un objectif de créer, je sais pas, un petit court-métrage ou une chanson de 5 minutes. Avec 5 minutes, je pense qu'on est capable de toucher à tous les corps de métier. Puis c'est pas trop prenant. Dans le sens, comme la durée est pas très longue, la période d'apprentissage aussi va être comme réaliste pour donner le goût aux jeunes de vouloir en découvrir plus. Parce que moi, je suis habitué de vivre en milieu urbain, puis tu sais, je suis bien ici, tu sais. Mais pour des jeunes, des fois, sortir de leur communauté, c'est peut-être un enjeu aussi qui compte beaucoup. Donc, c'est un peu plus difficile de devoir les déplacer là où il y a du travail. Quoi? Ça, c'est le défi numéro un. Parce que l'intérêt est là. Après ça, amener l'accessibilité au métier, c'est plus dur. Mais aujourd'hui, si je prends exemple la PCMIT, il y a Olivier Bacon, si je me trompe pas, qui a démarré justement une boîte de production audiovisuelle où il fait des émissions qu'il met sur la plateforme YouTube par la suite. Comme grâce aux plateformes, mais on n'est plus obligé de déménager pour offrir du contenu. On peut rester dans notre communauté puis participer avec les milieux culturels, avec des communautés pour être capable d'avoir un métier puis d'en vivre. Ça m'a permis, entre autre, de justement regarder le tournoi de hockey de PSMIT cet hiver avec sa plateforme. C'est des choses qui sont nouvelles, puis c'est un gros plus, là, puis OK, moi je suis rendu technicien, puis croche sur tous les détails techniques quand il y a des pépins, j'ai tendance à vouloir pas le punir, mais faire des remarques ou quelque chose, mais à la fin, j'oublie pas de le remercier, là. Qu'est-ce qu'il fait, c'est important, tu sais.
Ouais, je
Pour la
pense que
promotion de la
tu vas avoir
culture.
des commentaires à dire si jamais tu écoutes le volet balado là, de notre podcast. Tu vas entendre des fois, c'est pas le meilleur son.
Ah bon, il va avec les moyens qu'on a, hein?
Ouais.
C'est sûr que.
Il y a Maïlis qui disait Wapi, c'est un bon moyen en fait pour aller dans les communautés. Là. Je
Oui, c'est
pense.
ça. Ça fait déjà plus que 10 ans que la WPI fait ce mandat-là, justement.
Je pense que ça fait 20 ans.
20
20 ans
ans.
cette année, oui.
Je me rappelle les
Et.
premières années qui sont arrivées à Manoine, ils couraient tout le temps après moi. J'avais des amis qui étaient coordonnateurs, puis ils disaient, tu veux faire un film? Non, j'ai pas envie de faire un film. Moi, je veux le grand cinéma Hollywood si jamais je fais un film, mais pas un petit film, non. C'est ça que je me disais dans ce temps-là. Mais là, ça a bien évolué depuis, là.
Mais de fait, je suis au conseil d'administration, je suis bien placé, tu vois, Piconi, pourra leur suggérer peut-être effectivement d'inciter davantage ou peut-être t'inviter à certaines escales, justement, pour parler des métiers techniques. C'est sûr que la mission première, c'était de permettre une expression. Donc, forcément, on a insisté plus sur le côté réalisation, prise de parole, créativité, et moins sur le côté technique, là, expertise technique, mais ce serait effectivement peut-être un ajout, un angle sur lequel mieux insister dans les escales. Alors, merci à Maïlis, oui, c'est une bonne idée. En tout cas, on va leur en parler. Très, très certainement.
Je dirais que les métiers techniques sont vraiment des métiers sont fun à faire. C'est pas, on s'ennuie pas, les journées se passent bien. Puis autant des fois c'est l'été, on peut être à l'extérieur au beau soleil pour travailler, quand on est à l'intérieur d'une salle de théâtre, puis c'est quand même quand ça, j'ai eu la chance d'aller à Place des Arts à quelques occasions, puis c'est plutôt impressionnant. Pour avoir la chance de travailler là, c'est vraiment, on se sent choyé d'avoir ces opportunités-là aussi. Moi, je changeais plus de métier, là. J'ai trouvé ma place, c'est certain. Mais c'est sûr que c'est des métiers qui sont fun à faire.
D'ailleurs, là où tu nous parles, c'est une des ça s'appelle le monument national, et effectivement, c'est un monument, un patrimoine bâti, mais aussi un patrimoine théâtral, culturel extrêmement important. C'est une des plus anciennes salles de spectacle de Montréal qui est maintenant effectivement gérée par le théâtre, l'École nationale de théâtre, effectivement, était au Salon Vert, présentement. Et ça, c'est pour avoir accès au Salon Vert, faut être dans l'intimité du lieu.
Oui, il y a des petits codes secrets qui barrent les portes, là. Fait que moi, je les connais, les codes. Fait que là-dessus, ça va. Mais oui, je voulais oser de m'installer dans la salle principale, mais je pense qu'elle est en démontage. Fait que je voulais pas me permettre d'avoir un lieu bruyant.
D'ailleurs, si tu vois les dames qui s'occupent de la location, ils sont supposés m'envoyer un devis. Ils devaient le faire la semaine passée. Ils l'ont pas fait, mais c'est cette semaine. Alors, tu diras, c'est rendu public, là, on en a parlé sur
Okay. Ça
les
marche. Je vais aller là immédiatement après.
Voilà. Alors, aussi, ben, ça t'a fait voyager parce que je sais, justement, tu parlais d'Émilie Monnet. ses pièces ont voyagé au travers le monde, puis elle a eu des collaborations internationales beaucoup. Alors, peux-tu nous parler justement de tout cet aspect-là, des voyages que tu as fait, puis en même temps ce lien avec qui est maintenant une grande artiste reconnue du théâtre des Premières Nations?
Ben oui. Ben moi, avant d'aller, ben mon voyage en Écosse avec Émilie, c'était ma première fois que je traversais l'océan. J'avais jamais été en Europe de ma vie. J'avais rarement voyagé aussi hors du Québec. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis, j'avais très hâte de découvrir l'Europe. On la voit beaucoup en images sur nos écrans, mais être sur place, c'est une toute autre aventure. Et même s'il faut, quand j'ai ça, je sais qu'il faut faire attention de regarder à droite, ensuite à gauche quand on veut traverser la rue là-bas. J'ai oublié de le faire une fois, mais j'ai passé proche de me faire accrocher, mais j'ai regardé juste à temps, j'ai pas encore envie. Okay. Ça, c'est bon. Mais non, c'est très spécial de voyager pour la création. On rencontre beaucoup d'autres personnes que après coup, tu réalises que ces gens-là que tu crois sont déjà des grands artistes établis. Et que ça, c'est beaucoup d'humilité dans ces rencontres-là, je te dirais. Puis pour l'expérience avec Émilie, ça a vraiment été un beau processus qui m'a amené à l'Écosse parce que c'était pas prévu au début. J'étais pas censé partir en voyage avec elle. Ça a vraiment commencé comme assistant concepteur sonore. Puis elle devait faire une présentation devant le comité du FTA. Puis elle a invité une famille avec des enfants dans sa pièce. Mais dans le cas de la présentation, les enfants ne pouvaient pas être disponibles. Donc, elle m'avait demandé de prendre le rôle du jeune garçon dans sa pièce. Fait que, après avoir réalisé la performance, elle a dit, ah, j'aime ça, ton énergie, t'es vraiment calme, puis j'ai l'impression que ça rassurait beaucoup le jeune garçon si tu faisais partie du show aussi, comme interprète. Fait que j'ai accepté. Fait que j'ai participé au projet dans le cadre du FTA. Suite à ça, à la fin, au repas après la dernière, elle me dit, hé hey, là, essaye vraiment fort pour essayer de t'amener avec nous en Écosse. On va regarder côté budget si c'est possible. Là, ben moi, je restais 13 ans, je dis, ah, ça serait très gentil, j'apprécierais beaucoup. Et en arrière de moi, j'avais vraiment les bras croisés, puis je te dis, oui, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Fait que je gardais les doigts croisés beaucoup. Puis finalement, j'ai eu la chance d'aller en Europe. Donc là, j'accompagnais aussi les enfants aussi là, pour les aider là, dans le processus. Puis c'était impressionnant de voyager. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, s'ils peuvent un jour. Une expérience comme j'ai vécu là, ça, vous dites pas non si vous en avez la chance, le
Ben
prenez-le.
oui. Surtout qu'Émilie voyage souvent, mais sans pour faire ça, là. Elle va souvent en Amérique du Sud, là.
Oui, c'est ça, là, on le voit là qu'elle, ça s'émancipe beaucoup là, ses projets, c'est cool. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi là. J'ai l'occasion de collaborer avec elle sur des projets de développement en cours. Je vais mieux garder ça confidentiel pour l'instant, je vais pas trop en parler. On va garder la surprise pour plus tard, mais je remercie toujours Émilie quand je la croise parce que pour elle est contente d'être avec moi parce que je pense que elle est bien quand elle est avec moi. Moi, c'est plus avec merci, tu me fais vivre vraiment des expériences très spéciales là, puis c'est souvent des premières fois pour moi. Ça porte beaucoup dans mon cœur, Émilie. Ça me donne de belles opportunités.
Oui, mais d'ailleurs, pour Émilie, c'est un peu naturel, d'une certaine façon, de côté international, puisque sa famille, elle vient d'un couple mixte, breton, anishinaabe, donc ça lui fait un pied chaque bord de l'océan, si on peut le dire. Donc, elle a dans sa nature même, une pensée internationale, ce qui lui donne d'ailleurs dans ses créations quelque chose d'assez exceptionnel et extraordinaire. J'en profite aussi, encore une fois, tu as mentionné le FTA, qui est le Festival Transamérique. Alors, c'est un festival important à Montréal de danse et de théâtre qui accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la création autochtone et qui a beaucoup épaulé Émilie. Alors, je salue David Lavoie, qui est le encore directeur et qui va quitter bientôt. Et c'est lui beaucoup qui a insisté pour cette impulsion. C'est vrai que c'était là avant avec Marie-Hélène Falcon, mais sous David Lavoie, là, ça a pris une forme encore plus forte d'avoir un souci. Et d'ailleurs, on a le programme, là, on peut aller sur Internet voir le programme du prochain FTA. Vous allez voir, il y a des shows autochtones, des performances autochtones d'ici d'ailleurs, absolument extraordinaires à voir. Et en plus, j'en parle aussi parce que maintenant, tous les festivals, on est fragilisés présentement. Parce que à cause de l'inflation, essentiellement, le financement demeure au même niveau, même des fois, il baisse un peu. Alors que le dollar, lui, perd de la valeur. Alors, et qu'il faut payer les techniciens. Alors donc, voilà, donc on est tous actuellement, on a sonné l'alarme pour dire qu'il faut repenser les modèles de financement actuels et on va frapper à différentes portes, justement, chez les bailleurs, les décideurs, aussi. Beaucoup au public, mais aussi dans le privé. On a rencontré, par exemple, la Chambre de commerce de Montréal, Tourisme Montréal, pour justement que les festivals soient mieux et soutenus et puissent continuer à se développer puis à fournir une belle programmation et que Montréal, comme ville de festival, puisse continuer à porter son titre et pas le perdre. Alors donc, voilà, c'est le... Le message que je tenais à passer, c'était ma partie éditoriale.
Oui, mais j'inviterais les gens aussi à regarder un peu les nouvelles parce qu'il y a une marche qui s'en vient justement, une petite marche pour manifester la baisse de financement. Je sais plus si c'est, je crois que c'est mercredi la semaine prochaine. Fait que je vais vérifier les dates comme il faut. Nous, on est à l'entrée en salle ici, mais je vais regarder avec mon équipe si on se permet pas justement d'arrêter nos répétitions pour justement prendre part à la marche.
Oui, l'Union des artistes est très impliquée là-dedans. Je pense que c'est le 16 juin, si ma mémoire est bonne.
Okay.
Mais on vérifiera ou on invite en tout cas les gens à vérifier. Et de se rejoindre par solidarité, pas besoin d'être un artiste des arts de la scène. Moi, j'étais à la manif précédente où il pleuvait et il faisait frais, maudit. Mais à crier des slogans, on se réchauffe. Puis effectivement, l'idée, c'était de demander dans ce cas-là que le Conseil des arts et lettres du Québec soit mieux financé. Donc, c'était pas uniquement montréalais dans ce cas-là, puisque le Conseil des arts et lettres du Québec finance les activités artistiques, les initiatives artistiques aussi bien en Abitibi, la Côte-Nord, le Nunavik, partout les artistes ont accès au financement. Donc, c'est quelque chose, c'est une démarche importante. Et de fait, j'ai rencontré là Charles Bender et compagnie qui étaient là, puis même des vieux de la vieille, là, des gens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, puis Guy Trouvette, j'ai vu Guy Trouvette, qui disait « Je rentre chez nous, je suis gelé ». Alors donc, oui, il y a tout un mouvement en cours, et c'est bien, ce serait bien que vous puissiez trouver, pendant que vous êtes en répétition un petit moment pour vous joindre, en tout cas, moi je l'ai mis à mon agenda.
Parfait.
Et là, peut-être, ce serait le temps de revenir à ton projet, que tu nous en parles davantage, même si on ne pourra pas aller le voir parce que c'est déjà complet, mais il y aura sûrement des suites, puisque si c'est complet maintenant, l'intérêt est là, et il y aura sûrement une autre version ou des supplémentaires à point nommé. Mais j'aimerais que tu nous en parles un peu, parce que je pense qu'à l'âge que t'as, toi, t'es pas allé à l'école résidentielle.
Alors. Ah non, c'est ça.
Alors, comment t'as été amené à intégrer cet élément-là dans une création?
Comme je disais, avec la simple phrase que Charles m'a dit que je pourrais parler du pensionnat, l'idée est venue de continuer de faire un spectacle immersif à l'aveugle, parce que les gens enlèvent la vue aux gens. Et l'idée, ensuite, c'était vraiment Ça vraiment, tu sais, c'est un processus de d'y penser à chaque jour un peu pendant 2 ans pour en venir le processus. Mais je voulais briser la barrière, tu sais. En exemple, si on regarde un film sur un autre peuple ou si on voit une pièce de théâtre, ben, il y a comme une distance qu'on a entre le sujet qu'on nous parle puis nous-mêmes. Un exemple, je sais pas, moi. Mettons, je regarde ce qui se passe à Québec, il y a une situation plate, puis je vais dire, ah, c'est plate pour le monde à Québec, mais je me sens pas parmi le monde de Québec. Puis c'était ça, mon idée, c'était de briser cette distance-là en amenant les gens à l'intérieur du show. Donc, dans mon spectacle, sans trop le dire, ben, j'ai enlevé les gradins. Et les interprètes, ils circulent autour du public, leur parlent. Puis quand on fait vivre des choses de pensionnat, évidemment, c'est pas des choses très belles, mais je voulais rentrer dans le cœur du monde le plus possible. Pas qu'ils soient juste observateurs d'un pensionnat, mais je voulais qu'ils soient dedans. C'était ça mon objectif premier, que le monde soit dans le pensionnat avec moi et avec mon équipe. Je pense à ce niveau-là, justement, en privant le regard, ça aide énormément à s'y retrouver.
Ah,
Et
c'est vraiment intéressant, je trouve. On dirait que c'est fort de vivre ça, là, quand tu vis une pièce de théâtre et que tu sens que tu fais partie du décor, là.
mais c'est ça, tu sais, c'est parce que mon processus, c'est que à la fin, les gens soient plus compréhensifs sur ce qu'on a vécu, tu sais, puis grâce là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui souffrent maintenant. Je comprends comment ça, ils peuvent en souffrir autant, tu sais. Tout parce que parce que ma tentative de leur faire vivre ça comme s'ils étaient sur place a fonctionné. C'est un peu ça aussi mon idée. C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment quelque chose qui vient du ressenti le plus possible. Et des fois, les mots sont durs à trouver.
Ça me fait penser un peu à l'atelier du cercle et la boîte. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler.
Non.
Ben, c'est comme l'atelier de la couverture, mais dans le cercle et la boîte, si tu montes une société autochtone en se basant sur le cercle, puis tu décris chaque rôle de chaque personne. Fait que chaque personne, chaque participant va jouer un rôle, comme un enfant, un parent, un grand-parent, un guerrier, un chef. Puis on décrit chaque rôle de quoi ça va être là dans la société précolombienne. Puis après ça, mais on emmène la colonisation, le pensionnat, la loi sur les Indiens. Puis c'est lourd, c'est comme un 2 heures d'atelier, puis c'est vraiment lourd de ce que tu vis, là. Puis les gens sont amenés à vivre ce genre d'expérience-là à l'intérieur. Mais toi, c'est vraiment plus au niveau du son. Fait que ça me fait penser un peu à ça, là.
Mais je t'avouerais, mais au début, mon spectacle se voulait être un spectacle sans acteur, seulement sonore. Mais là, quand je suis rentré dans l'École nationale de théâtre, je me suis dit, ben, ça fait pas de sens que, si on prône l'art vivant, là. Et moi, j'arrive, je prends une formation comme concepteur sonore, puis je mets aucun acteur dans mon spectacle. Non, c'est quasiment insulté, c'est quasiment insulté l'école de théâtre que pas prendre d'interprète. Puis, fait que je me suis dit, on va trouver des acteurs, puis ils vont jouer dans la pièce aussi. Et franchement, c'est beaucoup plus fort que si j'avais seulement fait une ambiance sonore. Donc là, l'ambiance sonore est présente, mais elle sert plus comme une bulle, comme un moment de répit, entre autres. Parce que, tu sais, on se cachera pas, là. Les thèmes que je choisis sont très durs, sont très proches de la vérité. C'est pas jojo, là. Fait qu'il y a des moments où faut comme se reposer. Et là, je mets des capsules plus humoristiques, mais il y a beaucoup de jeux sonores aussi à ce moment-là. Mais ouais, la conception sonore, justement, là, cette semaine, va avoir la chance de la pousser davantage. Parce que je suis entre autres concepteur sonore, je suis interprète dans la pièce, je suis metteur en scène aussi. Ça fait beaucoup de cordes sur mon arc, puis on dirait que la conception sonore, c'est elle que j'ai eu la moins la chance de pouvoir travailler fort dessus. Mais là, cette semaine, je vais être en mesure de pouvoir comme mieux placer les effets sonores à différents lieux dans l'aire de jeu. Fait que ouais, ben c'est ça. Puis quand j'ai ça, au niveau de la création, c'est fait, mais là, on s'en va plus dans le côté méthodique et méticuleux là, de la conception.
Oui, le fine-tuning, parler en bon français. Voilà.
Exactement.
Les, d'ailleurs, c'est assez particulier. C'est en faisant perdre la vue aux gens que tu vas faire la lumière sur ce qui a été vécu dans les écoles résidentielles.
Une belle phrase. Je n'avais pas réalisé ça comme ça, mais effectivement, ouais.
Et tu disais que pour l'instant, ce serait un peu comme là, tu me diras, je me trompe peut-être, mais il me semble que je crois voir que ce qui va être présenté, c'est comme le résultat d'un atelier, premier résultat d'un atelier, puis qu'après ça, il y aurait un show en bonne et due forme. Est-ce que c'est
Alors, on est quasiment rendu à la forme d'un show, à bonne et due forme, mais c'est on le présente comme un show. Puis d'après moi, il est complété, à part peut-être revoir certaines idées pour peut-être réécrire certaines choses. Mais dans l'ensemble, le show existerait comme ça, puis on pourrait partir en tournée, je crois. C'est sûr que là, on est toujours dans un cadre scolaire. Puis le processus de création, ça fait un an qu'on est là-dessus. On a eu comme plusieurs semaines de conception, de répétition aussi. Puis l'équipe est prête, là, on a hâte. Mais oui, on est parti pour débuter le spectacle. Moi, j'avais juste des idées de tableau, mais j'avais aucun texte d'écrit. Puis justement, ben l'école m'a trouvé un coach qu'on a nommé justement Xavier Huard, qui est venu participer au projet depuis le jour 1. Et puis il m'a dit, ah, ce que tu penses faire, parce que moi j'avais aucune idée de terme, comment on appelle ce que je veux faire, je sais pas comment on le nomme. Puis il m'a dit, ben là tu veux t'en aller vers du théâtre expérimental. T'as tes idées de tableau, tu sais les émotions que tu veux vivre, tu sais que tu veux parler de certains sujets, mais on n'a aucun texte, c'est pas grave, on va se trouver des interprètes qui sont bons en improvisation. Puis on va y aller de ça. Toi, tu vas donner tes intentions, puis les rôles les personnages aux interprètes, puis on va les laisser aller pendant 5 minutes. Ils vont juste improviser des affaires, puis ils vont dire des choses. Puis au fur et à mesure qu'on faisait ces exercices-là, il y a du contenu qui était dit par les interprètes qui sont devenus du texte. Donc, j'avais aussi dans l'équipe de dramaturgie, j'avais deux étudiants finissants de l'école qui ont participé au projet puis qui sont encore avec moi jusqu'à la fin. Et puis eux, justement, là, c'était vraiment des tout ce qu'ils entendaient, là, ils le retenaient puis ils l'écrivaient. Puis on a commencé le lundi, puis le mercredi soir, on avait déjà un premier texte de créer à partir de tout ce qu'on a dit. Puis déjà, on commençait à jouer avec le texte, évidemment. Puis le vendredi, on avait déjà première présentation devant quelques invités pour tester notre création. Et à ces moments-là aussi, j'avais déjà mis des extraits sonores. Donc, en une semaine, on avait déjà un show de 50 minutes de fait. Puis ça a fonctionné là, déjà au point que quand on est revenu à la deuxième semaine de conception et de création, bon, c'était juste du raffinement. Mais toute l'essence du spectacle est restée le même depuis la première semaine. Fait que ça, c'est pas pire. Je pense qu'on a tombé sur la bonne chose la première semaine. Fait que ça marche bien.
Mais j'imagine, là encore une fois, tu t'amèneras les précisions nécessaires, mais j'imagine que les finissants qui travaillent avec toi sont pas autochtones, donc il a fallu qu'ils s'approprient toute cette histoire qui appartient à nos nations.
Oui, il y en a qui n'avaient aucune idée. Tu sais. On habite à Montréal, l'histoire des Premières Nations peut être très loin pour eux. Cela dit, j'ai un cousin qui est aussi acteur, qui est interprète, puis je l'ai invité. Vous l'avez sûrement déjà rencontré dans le show de Manigan-ish, Scott Rivrain. J'ai immédiatement pensé à lui quand j'ai fait mon spectacle. Je l'ai invité, puis j'espérais qu'il soit disponible. Et depuis le début, il est avec moi là, dans le projet. C'est le fun parce que ça nous a permis de se rapprocher beaucoup. Parce que, étant donné la distance puis l'éloignement, ben j'ai pas côtoyé beaucoup dans notre jeunesse, on va dire. Puis la différence d'âge aussi est grande, mais ce projet-là a permis de nous réunir davantage. Là, à ce niveau-là, là, que j'avais la chance d'avoir mon cousin dans le projet. Il aidait beaucoup aussi le reste de l'équipe, là, qui est comme québécoise aussi. C'est un peu pour ça que j'ai pas eu le choix de devenir le metteur en scène du spectacle. Parce que tout le monde me regardait quand il y avait des questions de comment faut qu'on joue, nous, un jeune autochtone, tu sais, puis l'histoire aussi, tu sais, les frères, puis tout le système religieux aussi. J'étais très content d'être avec Xavier aussi là-dessus, parce que tout ce qui est plus comme tout ce qui était plus au niveau de la religion, ben du système religieux catholique, il y avait beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Comment les frères se sentaient, eux. Parce que moi, je connais l'histoire des pensionnats, mais je suis pas le plus ferré non plus. J'avais besoin de valider mes choses. Puis Xavier m'a présenté aussi à Omer Saint-Onge, qui fait un conte sur sa propre vie, le survivant des pensionnats. Fait qu'il est venu, on a pu se rencontrer au début du processus pour qu'il valide mes tableaux, comment je voyais ça. J'ai une bonne équipe autour de moi.
Omer Saint-Onge, c'est celui qui était venu au festival, André, il y a
Oui,
quelques
ben
années.
justement, on avait présenté la pièce qui est devenue le récit d'Omer Saint-Onge, hein, et c'est lui qui est allé voir les gens. C'est assez intéressant. C'est lui qui est allé voir les gens de Minwantaquan, puis il a dit, faut que mon histoire, je veux raconter mon histoire au public. Et au départ, évidemment, c'était vu comme un show un peu intime. Je l'avais vu justement au Monument national, d'ailleurs, où il avait été présenté. Et là, je suis allé voir Xavier Huard puis Omer à la fin. J'ai dit, écoutez, seriez-vous game de faire ça, hein? Ce serait un coup d'essai, mais faire ça sur une grande place, la place des festivals, puis donner justement un côté plus épique, plus historique, moins personnel à cette histoire-là, qui est effectivement une histoire, un élément historique important bon, au Canada, en Amérique, puis évidemment encore plus évident pour les Premières Nations elles-mêmes qui en ont été victimes de toute cette tentative d'éradication de nos cultures. Et ils sont allés prendre une marche à la place des festivals, puis ils sont revenus, puis ils ont dit oui, on le fait. Et c'est comme ça qu'on a eu la pièce d'Homère, et c'était drôlement intéressant. Et encore une fois, ben merci Simon, tu m'ouvres toutes sortes de portes pour des parenthèses, pour faire des annonces. Le 17 juin, on va avoir Macoucham littéraire à la Grande Bibliothèque. C'est dans le cadre des lundis culturels. Alors, les lundis, la bibliothèque est fermée. Ben, enfin, les salles de lecture sont fermées et là, on peut faire du bruit. Alors, on va y aller avec effectivement tambour et poésie pour une expérience là aussi avec le chant, la danse, l'espace et la création littéraire. Il y a des poètes qui seront là, dont Natacha Canapé-Fontaine, une autre fière Innu qui porte haut et fort les couleurs de la nation Innu. Alors, voilà. Alors, d'ici le 17 juin, il faut s'inscrire. Alors, on va aller sur le site de la Grande Bibliothèque, je le mentionne. Je ne sais pas si on est aussi bon que toi puis qu'on a déjà complet, mais...
Ah ben le truc, c'est d'avoir des places limitées, c'est plus facile à remplir.
Et là aussi, les places sont limitées. Je ne me souviens plus combien. Je pense que c'est 300 ou 400 personnes, en tout cas. Parce que pour des questions de sécurité et d'assurance, on
Ben
ne peut pas bourrer. Hein. C'est pas dans les communautés ou en dehors de Montréal, souvent, peut se permettre d'être un peu plus audacieux, mais ici, tout est. Bon, c'est non. Effectivement, on ne peut pas y échapper. Tout est normé avec. Parce qu'on est une grosse gang, toutes les uns sur les autres. Il faut que ce soit plus policé. J'ai pas dit filiqué, j'ai dit policé. Alors, mais est-ce que les plans sont déjà là pour la continuité du spectacle ou si
Ah.
vous allez faire ça puis y repenser après?
C'est que là, comme c'est dans un cadre scolaire, c'est comme mon projet final. On s'est limité à trois représentations pour des raisons de logistique aussi. Scott, il est très occupé. Lui aussi, il est en train de faire son processus pour entrer dans les écoles. Fait que il peut pas être tout le temps présent. Donc, ça ne me dérangeait pas d'avoir peut-être moins de représentation, mais d'avoir plus de temps pour répéter aussi en amont, je dirais. Et puis, c'était pour ça qu'il n'y en avait que trois. Après ça, là, je vais tomber dans le vrai monde, on va dire. Fait que là, je vais devoir me trouver des partenaires pour m'aider à produire le spectacle pour vrai. On parle peut-être d'aller justement au Festival Rideau pour essayer de faire une petite tournée au Québec. Futurement, ouais, c'est ça. À court terme, ça se fait de continuer avec la version qu'on a. J'aimerais avoir des autochtones, des acteurs autochtones aussi, davantage. Comme là, je suis dans un cadre scolaire, mes ressources étaient très court terme, fait que j'ai été avec ce que je pouvais, ben, les gens que je connaissais ou dans mon entourage immédiat. Donc, c'était ça mon objectif. Puis, ben, c'est aussi pour l'authenticité de la pièce, je pense que il faut des interprètes autochtones à l'intérieur. Suite à ça, ben, mes rêves, ce serait de pouvoir le mettre en anglais aussi. Puis, tenter de faire le tour du monde avec mon œuvre. Ça serait peut-être intéressant, là. Les ambitions d'aller en Australie, Nouvelle-Zélande, je sais qu'ils sont très intéressés par les cultures autochtones dans les autres pays aussi. Fait que je pense qu'il y aurait une bonne place à l'échange, là. Et justement, dans le cadre du Festival Transamérique, moi, j'y participe également comme coordonnateur technique. Donc, l'an passé, j'étais au Théâtre Prospero. Il y avait une production de théâtre australien qui était. Et si je leur parlais justement de mon processus de ma pièce sur les patients, on me dit, en tout cas, si jamais tu veux venir en Australie, contacte-nous, on va s'arranger pour que ça se fasse. Fait qu'on va voir la suite des choses. Je me dis qu'il y a un potentiel pour mon spectacle. En tout cas, j'y crois.
Oui, absolument. Il y a sûrement Transamérique pour être intéressé. Présence autochtone aussi pour être intéressé si jamais ça adonnait, ça tombait bien pour et de fait, peut-être moins en Australie, mais avec la Nouvelle-Zélande, on a plein de liens de contact qu'on a eu. Oui, on a eu Witsi Maera, qui est le grand écrivain, pas seulement maori, mais néo-zélandais, qui est un monsieur d'un âge certain, mais qui a toute une œuvre littéraire importante derrière lui, malheureusement peu traduite en français, c'est dommage, parce que c'est vraiment un poids lourd de la littérature dans le monde, et il nous a honoré de sa présence au dernier festival. Et puis, on a encore des... Là aussi, c'est encore confidentiel. Alors, on va juste le dire entre nous. Là, on va avoir un groupe maori qui va performer sur la place des festivals, plus du côté musical que théâtral. Alors, donc, là aussi, et puis probablement aussi des gens de Guyane, qui est française, là, qui les autochtones de là-bas, qui devaient être là l'an dernier, mais ça a été remis à cette année. Donc, de plus en plus, il y a effectivement ce réseau d'échanges entre l'autochtonie. Ça, beaucoup, beaucoup, ça a découlé des efforts qui ont été faits aux Nations Unies là, pour avoir une déclaration, une charte des droits des peuples autochtones. Alors, il y a des gens qui ont travaillé très fort là-dessus, mais ça a créé beaucoup de liens, d'abord au niveau politique, mais en même temps, une curiosité, je dirais, transnationale au niveau des peuples autochtones qui s'est concrétisée par tout un réseau d'échanges et effectivement, alors avec ta création, on va te souhaiter de retourner en Écosse ça aussi
Ben oui.
et d'explorer encore plus loin l'Europe, l'Océanie et le monde. C'est certainement des ambitions réalisables et on a hâte de te revoir au podcast pour que tu nous racontes tout ça.
Ben oui, ça me fait plaisir de participer.
Voilà. Alors, Alexandre, est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Ben oui, là, vraiment, ça me fâche un peu que je puisse pas y aller voir ta pièce, mais tu sais, t'en parles, puis j'étais comme, j'ai vraiment envie de voir ça, faut que je le vive, là.
Ouais, quand
Est-ce qu'il va en avoir d'autres comme ça? S'en viennent par la suite.
moi, je le souhaite beaucoup. Puis, on dirait que j'ai pas peur, mais dans le sens, le show il va pas s'éteindre après ça. Ça, c'est juste le début. Puis déjà, dès les premières représentations, on faisait à titre d'exercice. Je disais, non, non, il faut que ça existe, cette affaire-là. Il faut juste que là, je réussisse à comme le rendre réel pour l'instant, d'avoir, je ne sais pas trop, là. J'ai appris la conception sonore, la direction technique, mais tout ce qui est production et mise en marché, ça, c'est un autre domaine. Fait que, il va falloir que je cherche un peu plus avec qui je peux me mettre comme partenaire pour rendre ça possible. Mais oui, il va y avoir d'autres représentations. Cela dit, là, contactez-moi après votre émission, là, je vais m'arranger. J'ai des privilèges, fait que on va pouvoir les utiliser, là. Pas de
Moi, je le
problème.
rappelle à André.
Oh, merci Alexandre, j'osais pas moi. Je voulais les privilégier, mais ça me tentait, puis je suis bien content.
Ben, je vais vous inviter.
Ben,
Je vous
merveilleux.
invite.
Puis je me demande aussi, tu sais, avec ta pièce, on dirait que c'est plus un public allochtone. Est-ce que tu penses que ça se donnerait bien dans une communauté?
J'ai peur de la jouer devant les Autochtones, devant du
Ouais,
monde de chez nous, parce
ça.
que c'est un show très coup de poing. T'sais. Puis je voulais, même qu'on se ménage nous-mêmes dans notre violence dans le show. Puis pour nous, les Autochtones, c'est comme se tourner le couteau dans la plaie, encore une fois. C'est pour ça que j'ai pas à le présenter. T'sais, j'ai pas envie de massacrer l'humeur de tout le monde non plus dans une communauté en ramenant cette douleur-là. Mais en même temps, le message à la fin est tellement fort, t'sais. Ça vaudrait quand même la peine d'oser le faire. Ça, j'imagine que vous pourrez en discuter avec moi après l'avoir vu. Comme ça, vous pourriez m'aider à déterminer si je vais dans les communautés ou pas. Mais moi, à la base, ce show-là, c'est vraiment pour les Allochtones parce que c'est eux qui ont besoin de connaître cette histoire-là. Nous, on la connaît déjà, tu sais. Pas besoin d'y retourner.
Ouais.
Je le voyais comme ça. Et dans mon show, oui, je demande aux gens d'avoir les yeux bandés, mais ils ont la liberté de l'enlever, là. Si c'est trop douloureux, je me suis dit, au moins, si vous enlevez le bandeau, ben là, vous constatez qu'on est dans une pièce. C'est une mise en scène, puis un spectacle. Parce que, tu sais, contrairement à une pièce de théâtre traditionnelle, je mets pas l'emphase sur un éclairage de fou, puis je mets pas l'emphase sur un décor de malade. Ça ne sert à rien de mettre autant d'énergie là, puisque les gens ont les yeux bandés. Fait que je crois que si le spectacle est trop intense pour une personne, ben, qu'en enlevant le bandeau, ça va comme le ramener, j'allais dire, plus à terre ou, bon, c'est ça, j'allais dire sur sa chaise, mais il est déjà assis, donc, c'est ça. Mauvais jeu de mots. Mais ça, ouais, ça va être plus le recentrer au fait que là, je raconte une histoire, tu sais. Parce que l'expérience d'avoir les yeux fermés, là, ça tremble dans ta tête, ça tremble dans ton cœur. Puis là, c'est ton imagination qui dessine ce qu'il entend. Puis on a réalisé que c'est beaucoup plus brutal ce qu'on imagine que ce qu'on voit.
Puis en plus, chacun imagine à sa façon, hein. Fait qu'on ne vit pas tous la même façon, cette expérience-là.
Effectivement. Puis, une des exemples, tu sais, je veux pas trop de raconter ma pièce tout de suite pour que les gens vivent des punchs. À un moment donné, tu sais, il y a une petite performance sonore, toute petite, que les interprètes font, qui est simplement de respirer, puis de déplacer un meuble qui craque, puis quand tu le regardes, c'est avec tes yeux, il se passe vraiment rien d'impressionnant, là. Mais quand tu es dans ton imaginaire, puis ce que tu t'entends, là, ça te déplace dans un endroit, puis c'est pas un bel endroit, là. J'en dis pas plus pour que ça vous... Non, je veux pas en dire plus pour garder le plus de surprises, mais notre imaginaire nous amène dans des endroits vraiment pires que ce que la pièce fait. Donc, c'est ça qui est fort de cette œuvre-là. Puis c'est le fun de le découvrir parce que au début, quand j'avais juste une idée des yeux fermés, tu sais, je ne peux pas savoir ce qu'on allait ressentir ou imaginer. On ne l'avait jamais expérimenté. Fait que les résultats qui en découlent sont vraiment impressionnants.
Mais en tout cas, il y a toute une réflexion, parce qu'on parlait de présentation dans les communautés, mais il y a quand même toute une réflexion chez les artistes des Premières Nations sur le fait que pour, comme il y a un trauma qui est resté souvent intergénérationnel de l'expérience des pensionnats, le fait de le raconter souvent, ça permet justement de dépasser, d'aller vers une guérison. Mais c'est évident, faut que ce soit un truc comme ça, si c'est présenté dans une communauté, faut penser avoir des aînés, avoir des appuis. Il faut que ce soit songé parce que c'est évident que tout d'un coup, des blessures qui sont enfouies reviennent à vif et ça peut être difficile pour ceux qui le vivent. Et là, ça prend un support autour. Il faut que ce soit bien préparé parce que oui, c'est quelque chose. Mais à mon avis, je le prends tout simplement de plein de discussions qu'on a eues, notamment avec les artistes, puis souvent à ce podcast même. Il me semble que les gens des communautés devraient avoir accès à cette expérience-là pour justement comme moyen de tourner la page. Quand ça devient une histoire, ça devient une histoire ancienne, alors que souvent quand c'est pas raconté, ça reste un nœud qui ronge de l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'on nous a raconté souvent, ce qu'on nous a dit souvent.
Ouais, je peux parler d'expérience avec Isaac Bidigun. Dans les années 80, au milieu des années 90, Tawandina qui était allé à Manoan, faire un théâtre de guérison. Je pense que c'est le cercle Miguizio qui aurait contacté Tawandina parce qu'il voulait faire un théâtre de guérison. Puis ils ont fait 3 pièces de théâtre. Il y en a une que je retiens beaucoup. Elle a beaucoup circulé en cassette vidéo dans la communauté, puis on a grandi avec ça. C'est une pièce de théâtre comme style Roméo-Juliette, mais version communautaire, dans une communauté autochtone. Puis c'est vraiment une pièce de théâtre coup de poing parce que c'est la première fois qu'on parlait des problèmes sociaux du syndrome du pensionnat, de tout ce qui est arrivé à cause du pensionnat. Puis ça a amené aussi une réflexion que moi, en grandissant, pourquoi c'est arrivé ces affaires-là? Pourquoi il y a eu le pensionnat? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ma mère était aussi comédienne là-dedans, elle a joué dans la pièce. Puis on me racontait que les aînés, à l'époque, dans ce temps-là, étaient très fâchés de la pièce de théâtre parce que c'était genre, ils étaient très superstitieux. Tu ne peux pas jouer un personnage que tu n'es pas parce que tu vas éventuellement devenir ce personnage-là. C'est comme ça la croyance. Puis ils étaient contre la pièce de théâtre. Mais les gens qui ont joué à la pièce de théâtre, ça a amené aussi une réflexion où on doit faire un travail de guérison, puis on cherche à se guérir. Puis ces gens-là, ils ont commencé à cheminer. Fait que cette génération-là, ils ont commencé à cheminer vers la guérison, puis nous autres, on a grandi là-dedans. On a été exposés aux problèmes sociaux, puis on a compris pourquoi c'est devenu comme ça, c'est à cause du pensionnat. Fait que moi, en grandissant, moi, c'était comique aussi. Moi, je trouvais ça comique au début, mais en vieillissant, je comprends que les affaires qui s'est faites, qui sont dites, c'était des vraies, des choses qui sont passées, puis c'était pas le fun dans ce temps-là. Là.
Mm-hmm.
Puis en même temps, mais c'est ça, ça m'a amené aussi à ce que je sois plus sensible par rapport à ce qui s'est passé avec le pensionnat. Là. Parce qu'avant ça, je comprenais pas. Mettons, on pouvait vivre des situations dans une communauté, puis tu fais juste dire pourquoi cette personne-là est si méchante, genre, pourquoi il a tant de problèmes dans sa vie. Puis quand tu comprends que ça vient du pensionnat, je pense que t'as une plus grande sensibilité par la suite. Là. Fait que c'est pour ça que je me demandais si ta pièce serait convenable aussi dans une communauté. Probablement que les générations plus anciennes seraient peut-être traumatisées encore, mais les jeunes vont peut-être avoir une réflexion qui va découler de ça.
Oui, puis c'est sûr que tu sais, ma pièce, la finalité aussi, c'est beaucoup d'améliorer les échanges entre allochtones et autochtones, mais il y a la fierté d'être nous aussi là, qui est très présent comme message dans mon spectacle. Fait que je pense que sur cet aspect-là, oui. Fasse attention, ben je veux pas dénoncer quoi que ce soit de ma pièce. Mais oui, comment je dis ça? Malgré tout, la fierté est toujours là. T'sais. Fait que ouais. Je veux pas en dire plus, sinon je vais me divulgâcher, fait que je peux pas.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On veut pas faire de toi un divulgâcheur. On veut pas que tu joues ce personnage-là, parce que c'est dans notre podcast. Alors, je pense que là-dessus, on va dire à tous nos auditeurs, d'abord, on va merci d'avoir été là. Et puis, rappeler que c'est un rendez-vous tous les mercredis midi, et puis qu'on peut rattraper nos échanges sur plein de plateformes, Dis donc lesquels, Alexandre, moi je me mêle dans...
Ben, on est sur Facebook, YouTube, on est aussi sur Instagram Live. Mais ça, je pense qu'on peut pas le regarder par la suite, mais on peut regarder sur Facebook puis YouTube en différé. On est aussi sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, toutes les plateformes de balado, en fait, là, à travers Podbean, la plateforme Podbean. Fait que juste taper Rue Adaleghen, ton Simon Rivrain, puis vous allez le trouver.
Parfait. Alors donc, on se dit à la semaine prochaine.
Et, merci beaucoup de m'avoir invité.
Niaud.
Vraiment une belle expérience.
Niaud, merci d'être là. Niaud. Fait qu'on se voit la semaine prochaine.
Bye.
Bye.